L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, prêtre du diocèse de Cahors.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. La prière. Vaste sujet pour les chrétiens que nous sommes. La prière fait partie de la vie du disciple du Christ, comme la respiration ou la nourriture pour le corps. Elle est essentielle à notre âme. Elle est canal qui permet au fleuve de vie qui jaillit du cœur de Dieu de couler jusque dans notre propre cœur. Elle est la lampe qui porte la lumière. Elle est le lien avec le divin, l'éternel, l'infini de l'amour. En termes plus modernes, elle est la connexion permanente avec Dieu. Saint Luc aime nous montrer Jésus en prière. Il prie plus souvent seul la nuit, car il peut s'isoler. Il prie avant sa passion, il prie avant d'appeler ses disciples. Mais parfois il prie tout haut ou devant témoins, comme ici sur la montagne. Pour Saint Luc, la montagne est un lieu privilégié pour faire des expériences dites spirituelles. Moïse recevra par exemple les commandements divins sur la montagne. Je cite « Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui. » Dans le livre de l'Exode. C'est la première expérience de Moïse dans le livre de l'Exode, expérience de révélation du divin qui conduira Moïse à recevoir toute une série de règles, lois et principes pour régir la vie du nouveau peuple de Dieu. Et plus loin dans le même livre de l'Exode, Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne. La gloire du Seigneur demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Bien sûr, les similitudes avec notre récit d'aujourd'hui sont époustouflantes. 40 jours de jeûne et de prière, seuls, auront permis à Moïse d'être disponible à la parole divine qui ne parle qu'à nos cœurs. Comment l'entendre et plus encore la suivre, lui obéir, si nous ne sommes pas reliés à notre cœur, à l'écoute de notre propre profondeur? Et c'est la nuée lumineuse qui conduira le peuple de Dieu, les Hébreux, au travers du désert pendant 40 années, là encore le chiffre 40, celui de notre carême. Même quand ce peuple récriminera contre Dieu et sa volonté, la nuée lumineuse guidera le peuple au travers du désert. Mais les 40 années permettront à Dieu de laisser passer la génération de ceux qui ont quitté l'Égypte et ses mirages. Ainsi, le chiffre 40 apparaît comme celui de la purification de la mémoire et de l'épreuve du désert. Il s'agissait, pour le peuple de Dieu, d'être peu à peu ajusté à la volonté divine. Le prophète Élie, lui-même, marchera, dit le texte au premier livre des Rois, 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne dite de l'Horeb, la montagne de Dieu. Il y rencontrera donc le divin. Je cite, « À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. » Cette parole l'enverra en mission vers les humains à nouveau, alors qu'il avait commencé par vouloir mourir, persécuté qu'il était par la reine Jézabel. Sur cette montagne du mont Tabor, traditionnellement attribuée à cet événement de la transfiguration, Jésus est transfiguré. Il est dit « L'aspect de son visage devint autre, sans doute autre que celui de tout mortel, d'un rayonnement et d'une lumière autre que ce que peut offrir notre humanité et notre création. » Quant à son vêtement, il devint d'une blancheur éblouissante. En tout cela, Jésus est passif. Il se laisse transfigurer par son Père et traverser son vêtement par une lumière qui est telle que les témoins Pierre, Jacques et Jean vont le mentionner dans leur témoignage. Sans doute, le corps de Jésus devait-il rayonner tellement que cette lumière traversait son vêtement. Il laisse pour un instant l'éclat de sa divinité imprégner ce corps qui en devient rayonnant. De par son incarnation, en effet, cette gloire divine aurait dû être l'éclat normal du Christ, qu'il ne l'ait laissé apparaître que cette seule fois, et même pas devant tous les apôtres, montre à quel point il tient à nous laisser le bénéfice de croire sans avoir vu. Mais ce que présage surtout la transfiguration, c'est notre état glorieux au ciel, où l'éclat de l'âme comblée de Dieu rendra nos corps ressuscités eux-mêmes glorieux, exempts des pesanteurs terrestres et participant de la gloire de Dieu. Saint Paul nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, « Et nous tous qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est esprit. » Moïse et Élie ont eu un destin exceptionnel, mais n'étaient pas des êtres exceptionnels. Ils étaient comme nous, mortels et pécheurs. Moïse lui-même ne sera-t-il pas privé de l'entrée dans la terre promise? Nous sommes donc tous invités à rayonner ainsi d'une lumière qui ne vient pas de nous, mais qui nous traverse et nous transforme à la suite de Jésus. À la suite de Moïse et Élie, Pierre, Jacques et Jean vont eux-mêmes entendre cette voix qui vient de la nuée et vont être invités à suivre une autre voie, VOIE et VOIX, voie qui est celle de leur maître Jésus. Ainsi, ils comprennent que Jésus est d'origine divine. On comprend mieux pourquoi Jésus n'a pas pris d'autres disciples. Qui pouvait accepter non seulement de faire une telle expérience, mais surtout d'entendre une telle révélation? Car il s'agit bien de cela au cœur de la nuée, lourde de toute la tradition biblique dont on vient de voir quelques mentions dans l'Ancien Testament. Au cœur de cette nuée lumineuse, les trois disciples entendent sans doute la plus grande des révélations. Jésus est le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, quintessence du peuple. Mais comme il est aussi homme, pleinement, nous sommes tous concernés par cette révélation, cette parole d'amour d'un Père pour son Fils. En ces 40 jours vécus de manière communautaire, entendrons-nous pour nous une telle parole ?